Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ABC de la médiation familiale, une émission proposée en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron, association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Et avec moi dans les studios pour cette émission du début de mois d'avril, c'est bien ça, c'est pas le premier donc c'est pas une blague, Justine Lacombe, médiatrice familiale diplômée d'État à la DAVEM 12. Bonjour Justine.
Bonjour David.
On blague souvent dans ton boulot?
Ouf.
C'est pas trop l'ambiance?
Non, c'est pas trop l'ambiance.
Non,
mais
des fois pour détendre l'atmosphère.
Mais c'est... ça arrive. Ah. Ça peut arriver, ça fait du bien quand ça arrive.
Ouais, j'imagine, hein, puisque tu rencontres des cas souvent difficiles. Hein, quand on engage une médiation, c'est que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, quels que soient les domaines d'ailleurs en ce moment. Ouais. Et justement, ces cas différents, particuliers, difficiles souvent, on va en présenter, en évoquer quelques-uns dans cette émission avec toi, Justine, puisque tu vas nous présenter des cas pratiques que tu as rencontrés ces derniers mois, ces dernières années.
Ces dernières semaines.
Ces dernières... Ah oui, c'est tout chaud.
C'est ça, mais ça reste des situations...
Universelles, même chez les Grecs.
Universelles, je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste des situations, on va dire, qu'on peut rencontrer tous en tant que médiateur. Là, c'est juste pour illustrer un peu plus.
Bon, et on rappelle que tu travailles à la DAVEM de l'Aveyron, donc sur le département de l'Aveyron, mais toi, tu es plus particulièrement sur... Alors, milieu carcéral, on va le rappeler, hein, parce que c'est une pratique très particulière qui demande des compétences particulières, une formation particulière, des autorisations particulières, particulière que tu as suivi, et c'est médiation en milieu carcéral que tu proposes à la maison d'arrêt de Drouel, hein, c'est ça?
Oui,
voilà.
C'est ça.
Bah, ça sera un des cas pratiques que tu vas nous présenter dans cette émission. Au programme aussi, des médiations en cas de conflit entre parents et enfants, père-fille, mère-fille, ça j'ai envie de dire, c'est du classique. Même si chaque cas est particulier, hein, mais bon, ça arrive très souvent. On va aussi s'intéresser à un déménagement qui pose difficulté dans le cadre d'une garde alternée. Hein, si on parle au bout de la France, effectivement, c'est compliqué pour échanger les enfants, entre guillemets, échanger hein, tous les 15 jours, toutes les semaines, ou je ne sais quoi. Et puis, au programme aussi, une séparation. Là aussi, c'est du classique. Mais bon, une séparation qui est engagée et des enfants qui ne sont pas encore au courant. Et alors là, ça ne doit pas être facile non plus, forcément.
C'est ça.
À informer, annoncer les choses. Mmh. Alors, on va commencer avec toi, si tu veux bien. Tu as prévu un petit déménagement, toi, prochainement ou pas?
Moi, non, je n'ai pas prévu de déménagement.
Moi non plus, mais des fois, ça arrive quand même. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça dans ce premier cas pratique que tu vas nous présenter, Justine. Ouais, donc on s'intéresse donc à un déménagement. Jusqu'ici, je ne veux pas dire que tout va bien, parce qu'un déménagement, c'est toujours une galère. Enfin, moi, ce qui me concerne. Mais qui pose problème, puisque y a des enfants, il y a un couple séparé, et puis une réorganisation à effectuer, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bah, c'est souvent une problématique qu'on rencontre, nous, en tant que médiateurs, avec des couples séparés, en effet, qui ont souvent une organisation... calé depuis plusieurs années pour certains, avec notamment des résidences alternées, puisque de plus en plus quand même on est confronté à ces organisations de résidences alternées qui se font de manière différente, hein, chacun a son organisation en résidence alternée. Mais quand un déménagement, on va dire assez lointain, alors quand je dis assez lointain, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin, hein. J'ai déjà évoqué des situations ici où un des parents allait à l'île de la Réunion, donc là c'est sûr que
c'est
autre chose, mais là ça reste qu'un déménagement d'une heure et demie, soi c'est pas énorme, mais
se les taper tous les week-ends aller puis se retour,
pour autant ça n'empêche que la résidence alternée ne peut pas continuer, puisque l'école déjà ne peut pas être continuer dans ces cas-là, parce que l'enfant ne peut pas avoir deux écoles, alors à part qu'il fasse l'école à la maison. Du coup, ça peut éventuellement être une solution.
C'est ce que tu as proposé?
Non, pas du tout. On n'a pas évoqué encore ça. Alors, pour l'instant, j'ai rencontré dans cette situation-là monsieur et madame séparément. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu d'entretien commun.
Donc là, c'est les deux qui sont venus conjointement te voir. Il est où le conflit entre eux?
C'est madame qui m'a contactée parce que c'est elle qui déménage, parce qu'elle se remarie avec son nouveau compagnon.
Ouais.
Jusqu'à présent, du coup, ils vivaient chacun chez eux. Et là, en fait, il y a vraiment le souhait de vivre ensemble.
Ce qui peut se comprendre.
Madame
quand on
a une activité en auto-entreprise, donc elle peut se déplacer facilement. Okay. Monsieur, lui, ne peut pas. Enfin, son nouveau compagnon ne peut pas. Donc, elle est obligée d'aller vers chez lui.
De le rejoindre.
Ce qui oblige évidemment une réorganisation de ce qui était déjà mis en place avec le papa de ses enfants.
D'accord. Et donc, elle, s'ils font appel à toi, bon, ça peut être en préventif, tout va bien, on va s'organiser, et voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que non, tout va pas bien, justement, devant la situation. Elle a proposé quelque chose au père qui a dit, mais attends...
Alors, pour l'instant, elle a rien proposé. D'accord. En fait, ils ont, on va dire, un passé judiciaire qui a été marquant pour eux.
Ah.
Une audience qui a été difficile, qui a été vécue voilà, de manière compliquée.
Okay.
Et en fait, elle n'a pas envie de revivre cette difficulté-là. Donc, elle tente de passer par l'amiable.
D'accord.
Sur ces situations-là, c'est vrai que de toute manière, même au niveau des juges, ils essayent quand même que ça se fasse au maximum à l'amiable.
Mm-hmm.
Parce que c'est des situations qui restent compliquées, en fait. Parce à un moment donné, il y en a un des deux qui subit le choix de l'autre de déménagement.
Ouais.
Mais finalement, ça met en difficulté tout le monde parce que ça fait des choix qui ne sont pas forcément faciles à faire.
Eh oui, bien sûr. Voilà. Donc là, au milieu, c'est un enfant, plusieurs
enfants. Trois
enfants. Remarque, ça ne change rien. Ou trois c'est
enfants.
Le même problème. Hein.
Ouais. Ça ne change rien aussi parce qu'il y en a qui se posent la question de séparer la fratrie. Et là, c'est la question qui se pose aussi.
Ah ouais.
Pour que du coup, en fait, il y en ait...
Il y en a toujours un quelque part.
Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que la question de la séparation de la fratrie reste un sujet qui n'est pas forcément...
C'est-à-dire qu'ils ne se voient plus, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça. Alors, ils peuvent se voir les week-ends, mais du coup, ça peut complexifier l'organisation.
Ouais.
Et c'est vrai que, de manière générale, on ne favorise pas, en tout cas, la séparation de la fratrie, à part si vraiment ça a une importance dans le lien, ou pour des raisons spécifiques. Mais même les juges, en général, évitent d'être dans cette organisation de séparation de la fratrie. C'est le cas aussi quand il y a des placements d'enfants, même dans les institutions. Souvent, en tout cas... Il y a à privilégier de maintenir la fratrie ensemble.
D'accord.
Mais là, en tout cas, madame est venue dans un premier temps. Alors, elle n'a pas d'idée, on va dire, définie totalement de ce qu'elle souhaite.
Moi non plus, j'ai envie de dire, parce que
elle
je
ne
sais
ouverte.
Pas comment on fait dans ces cas-là.
Elle est ouverte, on va dire, à toute possibilité.
C'est déjà pas mal.
Mais elle a conscience que ses enfants, notamment les plus grands qui ont, je crois, 16 et 14 ans ou quelque chose comme
n'ont
pas forcément envie de
changer d'univers, de changer de lieu de vie.
Voilà, il y a les copains, tout ça.
Oui.
Elle se pose la question plus pour le petit qui a 10 ans, qui a un gros suivi médical. Et qui est géré principalement par la maman, puisque du coup, la maman étant en auto-entreprise, elle peut facilement se libérer. Mmh. Mais donc est-ce que tout le suivi se déplace aussi, parce que ça veut dire retrouver tous les médecins
Les structures, l'organisation.
Ce qui n'est pas forcément évident non plus aujourd'hui. On sait à quel point ça peut être compliqué, des listes d'attente.
Tu m'étonnes.
Tout ça. Est-ce que finalement, justement, du fait de ces problématiques, est-ce que le déplacer de son univers, c'est aussi judicieux ou pas? Voilà, donc se pose plein de questions, en fait, diverses et variées en fonction des âges aussi des enfants. Donc, un enfant, deux enfants ou trois enfants, c'est pas forcément le nombre, c'est plutôt, j'ai envie de dire, l'âge des enfants et le contexte
particulier.
Donc, madame est venue dans l'état d'esprit de j'ai envie d'essayer de voir quels sont tous les possibles et comment on peut arriver à trouver une solution ensemble avec le papa.
Mmh.
Et moi, j'ai rencontré le papa qui ne sait pas du tout ce qu'elle souhaite. Il est un peu dans l'inquiétude de ce qu'elle va proposer. Mais parce que du coup, il n'y a pas d'échange entre eux, il n'y a pas de communication.
Okay.
Et ce sujet-là met un petit peu, cristallise un petit peu, donc ça reste compliqué.
Ouais.
Et lui n'est pas favorable déjà à séparer la fratrie. Mmh. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est OK pour lui. Il a envie d'entendre les enfants. Il a envie d'entendre leur choix. Alors voilà, du coup, là, c'est pareil. Il faut arriver à reprendre le fait que ce n'est pas aux enfants de choisir non plus. Ils ont le droit de pouvoir s'exprimer, mais ce n'est pas forcément les enfants qui doivent décider. Donc voilà, toutes ces questions se posent. Donc là, pour l'instant, je ne les ai pas rencontrées ensemble. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une situation qu'on rencontre souvent en médiation et qui est très intéressante à pouvoir être abordée dans cet espace-là parce qu'en fait, on va aller explorer tous les possibles. C'est ce que je leur ai proposé. En fait, on va poser toutes les alternatives qui peuvent exister.
Là, il faut une feuille, un stylo et puis faire des tableaux, des croix, des flèches de tous les côtés.
C'est ça. Et un peu les avantages, les inconvénients de chaque situation et essayer de voir qu'est-ce qui, a priori, semblerait le plus adapté actuellement dans la situation.
D'accord, mais donc là tu viens d'engager cette médiation familiale, et a priori il n'y a pas de, soit d'un côté, soit de l'autre, de volonté de bloquer pour une raison ou pour une autre. Les deux sont plus ou moins quand même partants pour trouver une solution, ça ne sera pas forcément du non, parce que dans ce cas-là, parce que moi le chantier je ne vois pas trop comment, mais tu vas trouver des solutions avec eux, mais dans ces cas-là, en général, personne n'est totalement content.
Bien sûr.
Les deux parents, les enfants, il y en a toujours qui disent, bon, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire.
Tout à fait. Après, ouais. Ça arrive, hein. Moi, j'ai eu une situation il n'y a pas longtemps où ouais. Madame était totalement OK que le papa prenne son enfant en résidence principale à l'autre bout de la terre, à l'île de la Réunion. C'était OK pour elle, c'était pas du tout un souci.
D'accord. Et là, tu sens que ça peut peut-être se faire, les trois, lâcher voilà. Les trois.
Là, je pense que le papa, il n'a pas du tout envie de lâcher.
Les trois. Ouais. Ah, de
parce
lâcher,
que pour
oui.
Lui, il considère que c'est pas.
Ah, bah oui, c'est pas lui le problème.
C'est
lui,
pas lui,
pas.
Donc du coup, il voit pas pourquoi les enfants se déplaceraient. Donc je pense que madame se prépare quand même à cette éventualité-là,
ouais.
Mais je pense que ça va être difficile pour elle d'accepter si jamais c'est cette décision qui sera prise.
D'accord. Parce qu'elle, elle serait pas prête à lâcher les trois enfants.
J'ai l'impression que ça va être compliqué pour elle et c'est pas pour rien. Je pense qu'elle propose l'option de s'occuper du dernier et de, on va dire, d'argumenter avec la problématique de la santé. Parce que je pense que pour elle, c'est difficile d'accepter de lâcher à ce niveau-là.
Bon, bah écoute. Et donc là, alors dans ce...
Après, là, ouais. Dans cette histoire-là, il y a des possibilités aussi de... C'est pas très loin non plus, donc ça reste quand même gérable.
Bah, une heure et demie,
elle imagine on en a déjà discuté, elle imagine éventuellement de pouvoir revenir les mercredis sur le secteur du papa, en fait, pour pouvoir éventuellement gérer les activités des enfants, en fait.
D'accord.
Et s'occuper d'eux, passer du temps avec eux, pas forcément du coup dans une maison, mais en tout cas être avec eux la journée du mercredi. Donc voilà, ça reste aussi une possibilité à envisager, ce qui permet, alors c'est pas l'idéal, hein, et c'est pas, ça fait pas moitié de semaine comme c'était déjà le cas aujourd'hui, mais ça permet au moins de garder un lien et de pas faire qu'un week-end sur deux. Quoi.
Donc là, cette médiation familiale, là, c'est complexe, hein, après, c'est comme ça, là, sur le papier qui vient de démarrer. On est parti pour combien de temps? Ça nous rappelle un petit peu. Toi, tu fais pas des médiations. Enfin, en médiation familiale, on part pas pour 3 ans de négociations, de discussions.
Non, bah, de toute façon, c'est assez rapide. C'est-à-dire que là, ils vont se rencontrer une fois. On va poser toutes les éventualités. On va faire en gros les avantages et les inconvénients de chaque situation. Soit ils arrivent rapidement à trouver une solution. Soit il leur faut un temps de réflexion après cet entretien-là et de mûrir un peu les choses et on se revoit une autre fois et ils arrivent à prendre une décision. Soit à un moment donné, c'est le juge qui va trancher.
Ah, oui.
Je veux dire, on ne va pas faire plein de séances pour faire plein de séances.
Ah, oui.
Soit dans tous les cas, il va falloir faire des compromis, il va falloir faire... la résidence alternée n'est plus possible. Donc là, la question, au moins, elle est réglée. Mais après, c'est comment ça se met en place concrètement et quels choix sont faits. Il y a des possibilités. Après, lesquelles vont être choisies?
Bah, affaire à suivre, comme dirait l'autre.
C'est ça.
Bon. Deuxième cas pratique dans l'ABC de la médiation familiale avec la DAVEM de l'Aveyron, du vécu, du concret, une situation récente avec toi, Justine. Là, on s'intéresse à une séparation.
Oui,
dans un
ça.
Couple. Enfin, une séparation, pas vraiment. Ils sont séparés physiquement, enfin, moralement.
Voilà,
mais ils continuent de vivre ensemble. Voilà, psychiquement, merci. Voilà. Mais ils continuent de vivre ensemble pour différentes raisons, j'imagine. Alors, en plus de cette situation qui n'est pas toujours la plus simple, il y a surtout, si j'ai bien compris, des enfants au milieu de ce couple, des enfants qui ne sont pas encore au courant que les deux parents ils ne partagent pas forcément le même lit. Quoi.
C'est ça. Alors, si, justement, ils partagent le même lit.
Ah, merde.
Parce que du coup,
Ah ouais, d'accord.
Se pose, en fait, donc là, c'est un couple, c'est monsieur qui m'a contacté sur les conseils de sa psychologue, puisque du coup, il a commencé un suivi psychologue.
Ah oui, là, peut-être.
Et donc, en fait, c'est un couple qui est séparé depuis l'été. Et quand ils arrivent, du coup, ça fait plus de 6 mois, en fait, qu'ils ont pris cette décision-là de séparation. Ils vivent toujours sous le même toit, du coup, ils dorment toujours dans la même chambre, parce qu'en fait, ils n'ont rien dit aux enfants.
Eh oui.
Parce qu'ils partent dans leur imaginaire, dans leur représentation, ils ne peuvent pas annoncer aux enfants une séparation tant qu'ils n'ont pas de possibilité
de se séparer
de
réellement.
Se séparer réellement, matériellement parlant.
D'accord, parce que quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un souci financier, ce qu'on peut bien comprendre, un souci de travail, un souci de pourquoi ils sont...
principalement, et c'est la problématique très souvent, hein, c'est le financier, c'est-à-dire qu'une séparation a un impact financier. Ils ont une maison commune, mais ni l'un ni l'autre ne peut reprendre la maison.
Ils
ne peut acheter la part de l'autre.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il faut vendre. Donc vendre, ça prend du temps, temps de faire les démarches et après trouver deux logements. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui peut se faire rapidement. Donc pour eux, ils partaient du principe que ça reste compliqué, hein, comme décision. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble.
Ils ont quel âge, les enfants?
3 enfants.
Oh bah 20 ans, c'est des grands quand même, non?
Ils ont pareil un peu 15, je crois, 15, 13,
ouais, quand même,
10,
ouais,
quelque chose
grand,
comme ça.
Mais pas si grand que ça, ouais. Ok.
Voilà. Cette problématique de, cette C'est aussi un moyen de reculer, hein. On va dire, la réalité de pas non plus l'annoncer aux enfants, c'est souvent quelque chose qui...
Oui, et les deux sont dans cette séparation, c'est d'un commun accord.
Non.
Bon, non. Ah non, il y en a un qui...
C'est madame qui a décidé, monsieur du coup subit.
Okay.
Voilà, c'est pour ça que du coup il a entamé une démarche aussi avec un psychologue pour pouvoir accepter aussi cette décision-là. Ce qui fait qu'il appelle quand même la médiation 6 mois après aussi, parce que voilà, il lui faut son temps d'acceptation de cette décision-là. Mmh. Et donc, quand ils arrivent la première fois, voilà, c'est vraiment ce questionnement. Ben, en fait, comment on peut annoncer aux enfants en fait, une séparation, sachant qu'on ne sait pas quoi leur dire, parce qu'on n'a pas d'organisation derrière, on ne sait pas comment on va faire. Du coup, on ne peut pas leur annoncer.
D'accord, mais les enfants, ils ne sont pas tout petits, quoi.
Non,
même s'ils sont quand même assez jeunes. C'est-à-dire que dans ce foyer, excuse-moi de l'expression, c'est pas... elle est pas terrible, mais bon, c'est quoi, c'est ils jouent la comédie à longueur de journée, de week-end, tout va bien, ou parce que sinon les enfants, même à 10-13 ans, et même sans savoir, ils peuvent se douter.
Tout à fait. C'est ce qu'on a discuté en fait. Ouais. C'est ce qu'on a essayé de. On a longuement discuté sur tout ça, sur le fait que en fait les enfants doivent sûrement sentir des choses, voir des choses.
Il y a des chances.
Et que du coup, à un moment donné, c'est peut-être important aussi de mettre des mots pour eux et qu'ils en ont peut-être besoin. Mmh. Et donc voilà, on a vraiment travaillé sur quels seraient les mots qui seraient importants de dire, quelles sont leurs peurs en tant que parents, quelles sont les craintes sur cette annonce. Et donc l'après aussi, voilà, avec cette incertitude sur l'après, en disant que en fait, ils sont pas obligés non plus. Ils peuvent aussi différer les réponses aux questions des enfants, entendre les questions des enfants, en tenir compte, pour qu'ils soient pris en considération dans leur questionnement et leur dire, on est en train de le réfléchir,
on va le mettre en place.
En fait, c'est quand même apporter une sécurité aux enfants. Ce qui est important, c'est de pouvoir sécuriser les enfants au maximum. Même si c'est différer une réponse, c'est essayer de sécuriser en tout cas les enfants. Donc, on a vraiment travaillé sur comment annoncer, quelles sont les craintes, les peurs de chacun, qu'est-ce qui est l'idéal ou pas dans cette annonce. Voilà, donc on a vraiment travaillé tout ça.
Mmh. Et tu as l'impression d'avoir été entendu parce que, tu sais,
oui,
des fois,
ça leur a vraiment permis de pouvoir avoir une image différente de ce moment de l'annonce, une représentation différente de ce que ça pouvait être. Parce que finalement, ils s'en mettaient toute une, on va dire, mais c'est pas les seuls, hein, beaucoup de parents en fait, hein, passent par cette phase en se disant « mais ça va être horrible en fait, ce moment-là ». Ils avaient peur aussi de leurs propres émotions en fait et de comment faire avec leurs propres émotions de parents au moment en fait, où ils vont annoncer leur séparation. Donc on a vraiment travaillé sur tout ça, ils sont repartis, moi je les ai sentis partir beaucoup plus sereins, beaucoup plus tranquillisés par rapport à ça.
Ouais.
Et on a commencé un peu juste vite fait à évoquer qu'est-ce qu'ils imaginent après, est-ce qu'ils veulent vendre, pas vendre, voilà. On était restés dans des choses quand même assez, on va dire assez globales.
Ouais.
Et la fois d'après qu'ils sont revenus, du coup, on a reparlé un petit peu de l'annonce, puisque du coup, ils devaient faire l'annonce entre les deux rendez-vous.
Oui, ce que je voulais
entre les deux rendez-vous, c'était prévu de faire l'annonce.
Alors.
Donc du coup, ils ont fait l'annonce et finalement, beaucoup plus vite que ce qu'ils en pensaient, parce que finalement, les enfants, du fait qu'ils sont venus à un rendez-vous chez moi, parce que du coup, c'était sur le libéral un samedi, en fait, les enfants ont déjà compris que...
Ils savent lire. Médiation familiale. Ils disent,
ils ne savaient pas qu'ils venaient chez un médiateur, mais ils se sont supposés qu'en fait, à un moment donné, c'était un rendez-vous qui allait dans ce sens-là. Donc, ça a accéléré finalement les choses.
Bon, c'est bien.
Mais par contre, ils ont. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ont très bien vécu le moment, parce que ça reste un moment qui est compliqué.
Non, mais
c'est
un.
Mais finalement, c'est
un
moment où il n'y a pas eu du tout toutes les inquiétudes qui sont eues. Ça s'est passé vraiment totalement différemment.
Ah, bah, c'est bien.
Et donc, ils sont revenus plus sereins, entre guillemets, parce que ça reste quand même une situation particulière, mais plus serein sur le fait que maintenant, ils n'ont plus besoin, en effet, de faire semblant. C'est posé, c'est acté auprès des enfants.
Et ils continuent de dormir ensemble ou pas?
Alors du coup, l'autre question sur l'autre entretien, ça a été aujourd'hui, matériellement parlant, qu'est-ce qui est possible ou pas d'emménager et de faire dans la maison pour que chacun ait son espace, vu que pour l'instant, ils acceptent de cohabiter, mais il faut faire quelques règles, on va dire, de fonctionnement pour que la cohabitation se passe bien. Donc là, on a vraiment essayé d'évoquer matériellement parlant qu'est-ce qui est possible de faire comme changement d'aménagement dans la maison, quelles sont les différentes possibilités, qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour chacun dans ces différentes possibilités. Et on a commencé à réfléchir en termes de planning aussi pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils imaginent? Est-ce qu'ils commencent à mettre en place une organisation en étant dans les mêmes maisons? Voilà, donc on a commencé un petit peu à réfléchir tout ça. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment avancé au fur et à mesure avec eux. dans les différentes étapes, venir essayer de comprendre quelles sont les inquiétudes, quels sont les questionnements, quelles sont les représentations qu'ils en ont, et venir un petit peu, voilà, mettre des mots sur tout ça qui n'arrivent pas, en fait, hein, à parler entre eux en dehors de cet espace-là, pour, on va dire, dédramatiser aussi certaines situations et permettre petit à petit d'avancer étape après étape sans se précipiter non plus dans quelque chose qui terrorise aussi au fur et à mesure.
Bon, bah écoute, ça se présente pas trop trop mal. Bah, après, on sait jamais, hein, ça peut bloquer plus loin sur séparation concrète, l'histoire des enfants, de la garde et tout ça. Mais bon,
là, ça me semble. Et c'est vrai que travailler sur les représentations, c'est intéressant parce que pour eux, ils considéraient qu'en étant séparés, ils ne pouvaient plus faire famille d'une certaine manière.
Ah oui.
Alors que c'était encore important pour eux de pouvoir faire famille. Ouais. Et en fait, pouvoir passer des temps ensemble, voilà, manger ensemble à des moments ou de faire des activités ensemble, en fait, tous les cinq. Pour eux, ils avaient envie de continuer ça et c'était d'accord. acceptable pour chacun. Mais en fait, dans leur représentation, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Parce que ça
pour
pouvait
eux,
pas
séparation,
exister.
Séparation.
Voilà. Ouais. Donc, on a aussi travaillé sur cette représentation-là. Et ça leur a permis voilà, d'avoir peut-être une vision un peu moins négative aussi et de pouvoir voir les choses un petit peu différemment.
Très bien, Justine, pour ce nouveau cas pratique cette semaine dans la BC de la médiation familiale avec la DAVEM de l'Aveyron. Autre situation, une médiation mère-fille.
Mère-fils.
Mère-fils, pardon. Mère-fils, qui est engagé. Ouais, mère-fille, mère-fils. Oui, c'est des cas différents, des situations différentes, mais ça va être un peu le même.
Oui, ça, c'est
pas forcément plus simple.
C'est pas les mêmes choses qui se jouent.
Bon, ça, alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe
Là, c'est madame qui m'a contactée en premier.
Ouais.
Son fils, du coup, de 16 ans, donc il y a trois enfants là aussi. Son fils de 16 ans ne veut plus. Alors, ils sont en résidence alternée. C'est pas qu'il ne veut plus aller chez sa mère, c'est qu'en tout cas, il veut y aller beaucoup moins.
Ah.
Idéalement, il aimerait y aller qu'un week-end sur deux. Enfin, en tout cas, y aller moins. Pas
d'accord,
forcément,
mais
ils sont
éloignés, c'est-à-dire qu'ils traversent la France à chaque fois.
Non, ils sont à 500 mètres l'un de l'autre.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Ça n'a rien à voir avec la distance géographique.
C'est pas les copains, les machins, les trucs.
Ça a à voir avec un relationnel compliqué entre la mère et le fils, avec beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés relationnelles entre eux. Qui fait que à chaque fois en fait c'est compliqué, voilà, ça met de la tension, ça met de la colère, ça fait surgir beaucoup d'émotions et donc entre eux c'est assez conflictuel.
Ouais.
Donc du coup voilà, le fils a un peu envie de se dégager de tout ça en allant davantage chez son père et il dit aussi que chez son père il travaille mieux parce que le cadre de vie est mieux, c'est-à-dire il a une grande maison. Chacun sa chambre, des grandes
d'accord.
chambres,
voilà.
un grand jardin.
Ouais.
Chez sa maman, c'est tout petit. Ils ont que deux chambres pour trois, enfin quatre avec la maman. Enfin bon, voilà. Donc du coup, il y a toute cet argumentaire-là, on va dire, du jeune. Donc du coup, j'ai reçu la maman, j'ai reçu le papa. Normalement, on reçoit les deux parents ensemble. Idéalement, en tout cas, on reçoit les deux parents ensemble.
Ouais.
Là, dans cette situation-là, c'était pas possible pour eux. Déjà, enfin, pour monsieur, c'était inconcevable. C'était
ah
pas
ouais,
okay
la séparation,
lui.
Est pas, c'est
et,
pas bien passé.
Et moi, j'ai jugé au vu de la situation, parce que j'étais sortie d'une formation juste avant qui m'a confirmé que j'allais pas faire ça. Y a une forme d'emprise qui est toujours restée en fait dans cette relation malgré la séparation. Qui fait que c'était pas non plus bénéfique en fait de les mettre dans le même espace
d'accord.
en tant que parents.
Ouais, ouais, ouais.
Mais j'ai malgré tout continué la médiation avec ce qu'on appelle la médiation navette, c'est-à-dire voir chacun voilà et d'aller de l'un à l'autre.
D'accord. Le père serait d'accord pour récupérer son fils plus régulièrement, plus souvent ou pas?
Alors le père il entend la difficulté. Il n'est pas forcément favorable avoir plus parce qu'en fait, lui, il a organisé aussi sa vie de cette manière-là où il travaille davantage quand il ne les a pas et il est un peu plus libre quand il les a. Et il a refait sa vie aussi hein, avec une nouvelle compagne qui a aussi des enfants. Enfin, bon, voilà. Donc, dans l'organisation, en tout cas, de sa vie à lui, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il souhaite. Et il se demande aussi par rapport à la fratrie, hein, encore une fois, c'est la question de la fratrie, c'est-à-dire si lui vient plus, en fait, comment ça se passe pour les autres. Voilà.
Ouais,
donc se pose aussi la question de la fratrie. Donc lui n'est pas forcément favorable, mais il entend aussi voilà, la difficulté et il compte bien que sur la médiation, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas.
Et là, dans cette médiation, là, tu rencontres le fils, 16 ans ça
oui,
peut
j'ai rencontré le fils.
D'accord, pour l'écouter.
Du coup, j'ai rencontré donc, la mère seule, le père seul. Ouais. Après, j'ai rencontré le fils seul, la mère seule et après, le fils et la mère ensemble.
D'accord.
Donc du coup, avec le fils et la mère, en individuel et après ensemble, j'ai travaillé sur leur relationnel aussi.
Oui,
en fait. Au-delà de l'organisation, j'ai essayé de comprendre en fait, qu'est-ce qui se passait dans ce relationnel qui était conflictuel, pour déjà faire en sorte que peut-être si on travaille en tout cas autour de cette relation et de ce conflit, si ça s'améliore, ça peut-être en tout cas permettre aux jeunes de pouvoir plus facilement accepter en tout cas de venir chez sa mère. Donc j'ai fait déjà tout un travail avec eux autour de ça. En fait, le jeune, lui, il disait qu'il avait la sensation que sa mère lui mettait beaucoup de pression au niveau scolaire, qu'elle l'empêchait d'être autonome et, on va dire, indépendant sur
sa mère. 16 ans, t'as envie de... Ouais.
Et elle, en fait, elle a en effet l'envie qu'il réussisse et la peur que... Elle ne lui fait pas forcément confiance sur certaines choses au niveau scolaire ou au niveau, on va dire, administratif des choses à faire.
Ouais.
Et donc voilà, elle lui met en effet cette forme de pression-là. Et lui, plus elle est là-dedans, plus ça rajoute de la tension, du conflit entre eux, et c'est un engrenage.
Ouais.
Donc on a travaillé en fait un petit peu sur ça, sur peut-être petit à petit en tout cas qu'elle, elle accepte de lâcher sur certaines choses pour tenter de responsabiliser son fils et de travailler un peu sur cette confiance, sur le fait que ben, il va faire en tout cas ce qui lui semble lui de faire et puis il en assumera les conséquences si c'est pas forcément fait à temps ou correctement. Et elle, en fait, d'accepter ça et lui de travailler aussi sur le fait que ben, il faut que si sa mère lâche un peu, ben, que voilà, il travaille vraiment sur sa responsabilisation aussi de ce qu'il fait ou ne fait pas. Donc on a travaillé sur ça et après, donc, on a essayé de voir en termes d'organisation qu'est-ce que chacun proposait. Donc, lui faisait une proposition, elle faisait une proposition. Donc, lui faisait une proposition de pouvoir aller chez son père. Oui, voilà, c'est ça. Au lieu d'arriver le lundi, d'arriver le mercredi. Du coup, d'écourter, en fait, la semaine de chez sa mère en n'étant pas une semaine entière, mais en étant en moitié semaine, en
D'accord,
fait.
Ouais, du mercredi au dimanche.
C'est ça.
OK.
C'était sa proposition. Ouais, et la mère, elle, faisait la proposition que si c'était plus facile pour lui d'étudier chez son père, qu'en fait, il puisse aller librement chez son père quand il veut la semaine où c'est chez elle, mais que par contre, il vienne pour le repas du soir et dormir chez elle.
D'accord. Voilà.
Donc elle, c'était sa proposition.
Ouais, ouais.
Donc du coup, finalement, on a trouvé un compromis que il teste entre... Donc là, j'étais aux périodes de vacances de février que je les ai rencontrés tous les deux. Donc on avait dit, on se revoit aux vacances d'avril et entre février et avril, vous testez l'organisation. Et en fait, ils ont décidé de tester les deux organisations, coup chacun, en fait, sur la semaine de la maman pour après faire un bilan. Donc, c'était plutôt pas mal parce qu'ils avaient réussi à trouver un compromis.
Ouais.
Sauf que je les ai quand même prévenus que ben, voilà, le papa était quand même concerné
quand même
dans la situation
oui.
et qu'il fallait quand même avoir aussi son accord, évidemment, sur cette décision-là. Donc, moi, j'ai contacté après le papa, j'ai fait un retour de cet entretien-là. Et donc, le papa n'était pas favorable à la proposition de la maman.
Qui rentre le soir, au moins le soir. Et
voilà, c'est ça. Le fait qu'il puisse aller chez le papa quand il veut et après qu'il doit rentrer chez la mère.
Ouais, bah, je peux le comprendre, ça.
Parce que lui, en fait, il n'avait pas envie que, de ne pas savoir s'il vient, s'il ne vient pas et que ce soit un peu open bar.
Moi, je peux comprendre.
Voilà. Par contre, il était OK sur le fait de tester l'autre situation. Donc, il a fallu vérifier quand même avec la maman si c'était OK de lâcher, finalement, parce que ça voulait dire qu'il fallait lâcher sur sa proposition à elle.
Et oui.
Et finalement, elle a accepté de lâcher sur la proposition en disant que par contre, l'autre situation qui était proposée, c'était vraiment que du test. C'est-à-dire que ce n'était pas officiel,
D'accord.
on teste.
D'accord, et teste combien de temps ?
Alors du coup, là, j'ai refait un entretien avec chacun et donc ils testent sur trois fois. Trois semaines de la maman.
D'accord, voilà. Donc ça fait un mois et demi. Quoi.
Et après, voilà, pendant les vacances, ils ne testent pas, ils restent une semaine.
Ouais.
Pendant les périodes scolaires, du coup, ils testent trois fois. On se revoit finalement en juin parce que le temps qu'on ait mis en place tout ça, ça valait plus le coup de se voir en avril.
Ouais.
Donc on se revoit en juin. Et après avoir fait ces tests, ils reviennent sur le système normal d'une semaine, une semaine pour voir ce que ça donne, en fait, pour avoir testé du coup les deux.
Ah d'accord, ils vont retester aussi l'ancienne formule.
Voilà, c'est ça, pour après, quand ils reviennent, avoir tous les éléments et de savoir du coup qu'est-ce qu'ils décident. Voilà, donc c'est vraiment pour expliquer tout le cheminement qu'il peut y avoir, à la fois de travailler sur la problématique qui fait que le jeune a envie d'avoir moins de temps chez sa mère, et à la fois de pouvoir essayer de trouver un compromis qui va à tout le monde, et de trouver un accord de fonctionnement pour pour à la fois entendre le jeune, et peut-être que s'il est juste entendu, ça peut suffire, et qu'il va réaccepter d'être en résidence alternée, surtout que très vite, il va finir ses études.
Ouais, il a 16 ans.
Voilà. Il va très vite pour peut-être partir, prendre un appartement, donc la question va se poser très... On va dire...
se résoudre différemment et d'elle-même.
À court terme, voilà.
Ok, bon, bah, c'est bien ça. Enfin, c'est bien, on va faire à suivre là aussi. Hein.
C'est ça.
Rendez-vous avant l'été pour la fin du suivi de cette situation, de cette médiation familiale. On part maintenant à la maison d'arrêt de Druel, puisque je disais en introduction, Justine, tu es médiatrice familiale diplômée d'État, avec notamment et en particulier une formation dédiée au milieu carcéral.
Oui, tout à fait.
Hein, puisque évidemment, c'est des situations qui ont leurs aspects particuliers par rapport à tout autre type de situation. Donc, ça veut dire que tu te rends là-bas tous les fois par mois, tous les deux mois, tous les trois mois.
Non, non. Alors, j'y vais trois fois dans l'année pour des informations collectives. Ouais. Et après, j'y vais au cas par cas en fonction des demandes en individuel.
Bon, alors là, évidemment, donc tu es allé auprès d'une personne qui est à la maison d'arrêt de Druel. Ah, monsieur, là-bas, c'est que des hommes, je crois.
C'est ça, c'est que des hommes.
Ok, alors qu'est-ce qui se passe ?
Du coup, là, je l'ai rencontré sur une information collective. C'est un monsieur qui n'a aucune nouvelle de sa fille.
Ouais.
Qui a 6 ans, je crois, 6-7 ans, et qui n'a pas du tout de contact avec la maman, puisqu'il y a une interdiction de contact de la part du juge.
Ah oui, c'est une bonne raison.
Jusque-là, c'est normal qu'il n'y ait pas de contact, en tout cas, avec la maman.
Ouais.
La maman ne sait même pas, en fait, qu'il était
incarcéré.
Incarcéré.
Ah oui, donc ça date d'avant leur séparation.
Oui, oui.
Ah ok, donc c'est pas lié des fois.
Non, non. Mais du coup, la maman ne savait pas. Ça a toujours été compliqué entre eux, en fait. Ça fait des années que... Donc, même avant l'incarcération, il n'avait pas forcément de lien avec sa fille. Le lien avec sa fille n'est pas coupé par l'incarcération. Il est coupé par leur situation qui a amené à une interdiction de contact entre eux.
D'accord. Bon. Et alors, sa fille, quand même, il l'a déjà vue
Oui, il a déjà vu sa fille.
Elle sait son père, comment il s'appelle, enfin, elle a des infos.
Oui, oui. Il y a très longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Elle le voyait en espace rencontre avec mes collègues.
D'accord.
Voilà, donc comme la dernière fois, c'était Stéphanie qui était venue nous expliquer les espaces rencontres. Donc, il voyait sa fille en espace rencontre.
Ouais.
Depuis, la maman a changé de département. Donc, du coup, les espaces rencontres n'ont pas pu avoir lieu. Et puis, il est incarcéré. Alors, même incarcéré, l'espace rencontre fonctionne. Puisque, du coup, j'ai des collègues qui interviennent aussi en milieu carcéral pour les espaces rencontres.
Ouais.
Sauf que là, comme il est incarcéré et que la maman est dans un autre département, ça voudrait dire que la maman doit se déplacer à chaque fois avec la petite. Chose qui rend plus compliqué, en fait. Parce que normalement, l'espace rencontre se fait sur le lieu de domicile de l'enfant.
D'accord. Ah oui, ben là,
sauf que là, avec l'incarcération, c'est pas possible. Donc ça voudrait dire que ce soit la maman qui l'amène, en fait, qui fasse le trajet. Donc chose qui n'est pas aujourd'hui, en tout cas, acceptable de sa part. Donc ça ne peut pas se mettre en place. Pour l'instant, tant qu'il est incarcéré, en tout cas, il ne peut pas avoir sa fille.
D'accord.
Donc, du coup, lui, il ne cherchait pas forcément à mettre en place une médiation familiale avec la maman.
Ouais.
Et de toute manière, la maman ne veut pas. Et donc, le juge, en plus, il faudrait que je demande une levée exceptionnelle pour la médiation familiale.
L'interdiction de...
qui est possible pour la médiation familiale. Mais là, en tous les cas, la levée n'a pas d'intérêt puisque ni l'un ni l'autre ne souhaite cette médiation familiale. Par contre, voilà, monsieur veut des nouvelles de sa fille. Donc, moi, là, mon rôle, c'est de pouvoir, en effet, essayer de voir comment c'est possible
contacter
avec
la mère.
La maman, voilà. Mmh. Donc, du coup, pour contacter la mère, j'ai d'abord dû contacter les parents de monsieur parce que, du coup, il n'avait pas le numéro direct de la mère puisqu'il a une interdiction de contact et qu'elle avait changé de numéro entre-temps.
Oui.
Donc, du coup, j'ai déjà eu les parents pour avoir le numéro de la mère. J'ai eu la mère... qui était pas au courant, donc du coup
l'incarcération. Tu lui as annoncé la nouvelle.
Donc j'ai dû lui annoncer en effet la nouvelle.
Okay.
Et j'ai essayé de voir avec elle ce qu'il en était aujourd'hui pour avoir des nouvelles en fait de sa fille et de comment c'était possible d'en donner en fait du coup au papa.
Ouais.
Donc elle m'a expliqué que c'était possible via les grands-parents. Du papa, enfin les parents du père, en fait,
les grands-parents
de la petite, avec qui aujourd'hui actuellement elle est en médiation familiale. Par ailleurs, dans son secteur en fait à elle, parce qu'il y a des conflits liés à l'incarcération, mais en fait elle savait pas qu'il était incarcéré, mais il y a eu des conflits en fait entre les grands-parents du fait du père, parce que les grands-parents avaient amené, je crois, leur fille au père avant l'incarcération. Et du coup, ça s'était mal passé.
Ah,
et
ouais.
du coup, bon, ça a mis des conflits entre les grands-parents et la maman.
Mm-hmm.
Donc du coup, il y a une médiation familiale aussi qui est mise en place. Et donc, j'ai eu la médiatrice qui m'a appelée parce qu'elle ne comprenait pas, en fait, pourquoi moi, je contactais la maman. Donc du coup, j'ai eu aussi la médiatrice familiale. Donc c'est quand même une situation où j'ai eu plein de personnes en aparté. Donc j'ai fait le point avec la maman sur ce qui était OK ou pas pour elle. Et le papa m'avait donné comme information que comme il n'arrivait pas à avoir de lien en fait avec sa fille à l'époque, c'était la maîtresse de la petite qui donnait des liens fréquents en fait
aux grands-parents,
au papa.
Au papa.
En fait, la maîtresse contactait souvent le papa ou le papa contactait la maîtresse avant l'incarcération en tout cas pour avoir des nouvelles de sa fille.
Ah oui, d'accord. Oui, OK.
Voilà, et du coup là la question se posait, c'est ce qu'il m'avait demandé, est-ce que les nouvelles peuvent continuer de passer par l'école sachant qu'elle avait changé d'école. Voilà.
Ouais, pourquoi pas, non ? Rien n'empêche.
Ouais. Donc du coup, moi j'en avais parlé avec la maman au téléphone qui m'avait dit que pour elle, c'était pas un souci en fait que le papa écrive des lettres ou envoie des choses et les envoie chez elle en fait à destination de sa fille ou que ça passe par les grands-parents, c'était pas un problème pour elle. Elle comprenait pas trop l'histoire de la maîtresse, voilà, ça l'étonnait, elle savait pas en fait que la maîtresse d'avant en tout cas donnait des nouvelles au papa par téléphone. Et finalement, je me suis retrouvée à ce qu'une la directrice de l'école m'appelle, après coup.
Ça a terminé avec le ministre de l'Éducation nationale.
Non, c'est la directrice qui m'a appelée parce que le papa, entre-temps, parce que l'inconvénient de le milieu carcéral, c'est que moi, je ne peux être en contact avec eux que par écrit.
Mm-hmm.
Donc finalement, ça met du temps. C'est-à-dire tant que je n'ai pas les informations, je n'en vois pas forcément. Alors que d'habitude, j'informe les gens par mail ou par SMS dès que j'ai une info, en fait.
Mm-hmm.
Là, en fait, dès que j'ai une info, je ne fais pas forcément le courrier. J'attends d'en voir l'ensemble des infos pour envoyer un courrier, en fait.
D'accord.
Ce qui fait que du coup, des fois, les informations n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc en fait, le papa, comme il n'avait pas encore eu de nouvelles de moi le temps que je fasse tous les appels, en fait, a essayé d'appeler la directrice de l'école. Il a réussi à avoir les coordonnées de l'école de sa fille, donc il a appelé la directrice.
Ouais.
Mais la directrice s'est retrouvée à ne pas savoir quoi répondre
au papa. C'est méfié, elle se dit « oui ».
Du coup, elle a appelé la maman après l'appel du papa. Ah, oui. Et donc, du coup, la maman lui a informé qu'il était incarcéré et que j'étais sur la situation
sur
en tant que médiatrice. Donc, elle m'a appelée dans ce cadre-là, la directrice, pour savoir. Et donc, j'ai calé avec elle aussi le fait qu'elle était OK que les informations passent par les nouvelles plateformes, le NT, les choses comme ça, pour l'école.
Mmh.
Et donc, du coup, on a parlé de tout ça. Donc, c'est à moi maintenant de donner les infos à monsieur. Les infos que j'ai eues avec la directrice de l'école et les infos que j'ai eues avec la maman pour comment donner des nouvelles en fait de sa fille. Mais voilà, donc du coup c'est pour expliquer tout le cheminement qu'il peut y avoir dans ce milieu-là où il y a quand même des interdictions, il y a quand même des difficultés de se voir du fait de l'incarcération.
Ah ouais.
Voilà.
Bon. Ben écoute, oui, c'est une situation encore complexe et qui est quand même en train de se mettre en place.
Au final, je vais pouvoir répondre à la demande de monsieur qui est de savoir comment il peut avoir des nouvelles de sa fille.
Ouais.
Donc, je vais lui donner plusieurs options, qui est les grands-parents, qui est la plateforme avec l'ENT, puisque du coup, la maîtresse accepte qu'il envoie des éléments. Alors, à voir si lui, on va dire électroniquement parlant, il a les moyens de pouvoir faire ça. Au sein de l'incarcération, au sein de la maison d'arrêt, et via la mère qui accepte que par courrier, en tout cas, il écrive à sa fille.
Bon, écoute, merci pour ce nouveau cas pratique, Justine. Ouais, on voit déjà la diversité des situations, puis parfois leur complexité, quoi. Et puis, à tout point de vue, de compréhension globale, d'information, puis de mise en place d'une médiation réalisée. Et où tout le monde à peu près est d'accord et satisfait de la situation. Dernier cas présenté dans cette émission avec toi aujourd'hui, Justine. Alors après la mère et le fils, le père et la fille.
Voilà,
c'est le jeu des sept familles.
C'est ça, c'est le jeu des sept familles.
On pourrait jouer aux sept familles, c'est sûr. Alors c'est quoi le souci ?
Là, c'est une ado, pareil, 16 ans, qui ne va plus chez son père. Là, c'est
alors, le fils, il voulait plus aller voir sa mère, et là, c'est la fille, elle veut plus aller voir son père.
Là, elle n'y va déjà plus.
Elle n'y va déjà plus.
À
quel âge ?
Elle a 16 ans.
Oui.
Elle n'a plus de contact avec lui depuis décembre.
D'accord, de son fait.
De son fait à elle.
Ouais.
Elle refuse de le voir.
Ouais.
Quand le papa vient chercher sa sœur, du coup, parce qu'il y a toujours
sa
sœur.
Ah, il y a deux, et l'autre, ça va.
Ça va. Et du coup, quand il vient chercher sa sœur, elle se cache dans
sa
chambre.
Ouais,
elle veut pas du tout pas du tout le voir.
D'accord, mais pourquoi elle le trouve, il est trop tôt, qu'est-ce qu'elle lui reproche?
Elle lui reproche parce que lui, en fait, il n'a pas le même cadre que la maman, notamment par rapport aux écrans. Il n'a pas forcément envie qu'elle passe du temps devant écrans.
Ah ouais, 16 ans.
Elle est très connectée à tout ce qui est IA, enfin voilà, toute la nouvelle génération un petit peu par rapport à ça. Elle est coupée du monde, hein, globalement. Elle a quand même phobie scolaire. Quand je l'ai reçue, l'ado, en fait, elle n'a pas d'amis. Ses amis, c'est l'IA et elle discute qu'avec l'IA et amis de l'IA. Donc, elle est dans ce monde-là.
Ouais.
Donc, elle s'enferme un petit peu là-dedans. Et du coup, pour le papa, en fait, il essaie de la sortir de ça. Il ne veut pas qu'elle soit là-dessus. Il veut qu'elle passe des temps beaucoup avec eux. Donc, en fait, c'est assez conflictuel. Du fait qu'elle, elle ne se sent pas bien à l'école, en fait, elle n'arrive pas, elle est plutôt en mode décrochage scolaire.
Ouais.
Donc lui, ben, il a envie qu'elle réussisse, donc pareil, il lui met la pression.
Un peu.
Donc voilà, ça fait que c'est beaucoup, beaucoup de tensions et de conflits par rapport à tout ça.
Uh-huh.
Et a priori, n'accepte pas non plus la séparation de ses parents et en veut du coup beaucoup au papa.
Au papa, c'est lui qui est parti.
Oui, il est parti, mais il a refait aussi sa vie, donc elle lui en a voulu qu'il refasse sa vie. Bon, là, il a re-arrêté sa relation, mais bon, voilà, parce qu'elle était très proche de lui et en fait, elle a mal dit.
Elle a cru que séparation, elle l'a pris pour elle, alors qu'il s'est séparé de sa femme.
Enfin,
de sa compagne,
bien sûr, mais du coup, voilà, c'était compliqué à ce niveau-là.
Alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu te déguises en robot pour aller la voir?
Non, du coup, j'ai reçu d'abord la mère, j'ai reçu le père, reçu la mère et le père ensemble, parce que par contre, ils s'entendent très bien, ils boivent souvent
les deux parents.
Les deux parents, ils boivent souvent des cafés ensemble, ils essaient de trouver des solutions ensemble sur les situations.
D'accord, bon, écoute, c'est déjà
ils arrivaient à passer des temps à quatre, enfin voilà, c'est pas du tout quelque chose qui les met en difficulté.
Ouais.
Donc ce qui est déjà plutôt mal. Hein,
oui, ce qui est déjà beaucoup.
Parce que c'est pas souvent le cas.
Ouais.
Et après, du coup, j'ai reçu l'ado, j'ai reçu le père, mais l'ado n'a pas voulu faire l'entretien avec son père.
Conjoint, d'accord.
Bon, ça n'empêche que j'ai pu au moins avoir quand même des informations à donner au père. J'ai pu avoir en tout cas des choses qu'elle a pu me dire. Voilà, des phrases qui étaient compliquées pour elle, des mots qui l'avaient marqué, qui l'avaient un petit peu traumatisé, des choses qui ont été douloureuses pour elle. Donc, j'ai pu quand même en transmettre quelque chose. Et après, j'utilise aussi les cartes Dixit, je t'en avais sûrement déjà parlé.
Mmh.
Et donc, ça permet un peu de travailler sur la relation. Je travaille avec le passé, présent, futur, un petit peu avec ces cartes-là.
Ouais.
Et donc, j'ai pu, en fait, voilà, montrer au papa le choix des cartes aussi de sa fille et qu'est-ce qu'elle imagine, qu'est-ce qu'elle projette, en fait, comme relation, qu'est-ce qu'elle accepterait de faire avec lui, qu'est-ce qu'elle accepterait de remettre en place en termes de lien, même si aujourd'hui, elle n'est pas prête, en tout cas, à le voir, qu'est-ce qu'elle accepte ou pas.
Ouais.
Donc voilà, et après j'ai fait l'entretien avec le père où je lui ai du coup transmis ces informations-là. Bon, c'était compliqué pour lui de savoir que sa fille n'acceptait pas rendez-vous commun parce qu'il mettait beaucoup d'espoir. Voilà, moi je lui ai dit que, parce que du coup l'adolescente n'était pas prête à le revoir pour le moment, mais elle acceptait de le revoir quand elle en serait prête avec la maman, parce qu'elle veut qu'il y ait la maman qui soit présente.
D'accord,
qui
toute seule elle veut vraiment pas.
Non, toute seule dans un premier temps elle veut pas, elle accepte la maman.
Pour l'instant.
Elle n'est pas contre le fait de faire la médiation familiale et de le rencontrer dans ce cadre-là, parce qu'en plus elle a eu confiance sur le temps qu'on a eu d'échange, mais elle n'était pas prête de suite, en tout cas à le faire, il lui fallait encore du temps.
D'accord.
Voilà. Après, elle demande à un moment donné quand même à aller moins à l'école. Elle a demandé à ses parents que moi, je transmette le message qu'elle voulait en tout cas trouver une organisation, faire un écrit en fait et mettre en place un protocole pour qu'elle soit moins présente à l'école. Mmh. Voilà, moi, j'ai quand même fait une orientation thérapeutique pour cette ado
peut-être.
Qui ne va pas bien du tout.
Oui.
Mais qui a su s'exprimer quand même dans ce temps-là.
Mmh.
Voilà, donc là, en fait, entre guillemets, une insatisfaction du papa de ne pas pouvoir voir sa fille parce qu'il y avait un espoir pour lui de pouvoir au moins la voir à ce moment-là.
Ouais.
J'ai quand même pu donner des informations. J'ai pu aussi faire passer des messages pour autant à l'adolescente sur l'importance des liens entre du père, le fait que son père a des droits et des devoirs, qu'il y a une autorité parentale conjointe, qu'elle ne peut pas non plus, elle, tout décider de tout, même si c'est important qu'elle puisse s'exprimer. Voilà, donc on a un petit peu pu reprendre tout ça et travailler aussi avec le père, le fait que même si elle refuse le lien, Il faut qu'il fasse tout pour le maintenir en continuant d'envoyer des messages, en
voilà,
continuant
parce que
de montrer qu'il est
peut
présent.
Évoluer. Avec les années, la saison, c'est souvent un âge compliqué, enfin, ces âges-là. Chez les garçons, chez les filles, peut-être dans 1, 2, 3 ans.
Voilà, mais c'est pas forcément évident.
Ah bah non, oui.
À vivre.
On peut l'imaginer.
En tant que parent.
Eh ben non. Bon, bah écoute, merci beaucoup Justine pour ce nouvel exemple, ce nouveau cas pratique que tu nous as présenté dans cette émission cette semaine. Je rappelle que tous les programmes, l'ABC de la médiation familiale, sont à retrouver en podcast d'ailleurs sur le site cfmradio.fr. Pour la DAVEM de l'Aveyron, quelle que soit la situation, on a vu quelques exemples là-haut dans cette émission aujourd'hui, on peut évidemment vous solliciter directement, c'est l'idée, une médiation c'est un acte volontaire, sauf cas très très particulier sur lequel on ne reviendra pas là tout de suite. Donc les locaux, vous êtes toujours à rue Ségui, dans le centre-ville de Rodez.
C'est ça.
Il y a aussi un site internet, adavem12.org ou .com, enfin on tape adavem, A-D-A-V-E-M et on vous retrouve. Tu as un numéro de téléphone en tête ?
En tête, oui.
Eh bien, oh, bah, bravo.
Non, en tête écrit sur le téléphone.
Ah oui, d'accord.
05 65 73 56 00.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Justine, pour ton travail et puis tous ces cas, ces exemples que tu nous as présentés une nouvelle fois dans cette émission. À très bientôt.
À très bientôt, David. Au revoir.